et principes actifs.
J'ai jamais rien entendu d'aussi ébouriffant.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principesactifs.net. Principes actifs, le mix des cultures.
À Paris et Madrid, 4 heures en temps universel. Une nouvelle demi-heure d'actualité et un nouveau journal. Bonjour Fabrice Legrier.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. Des milliers et des milliers de pompiers toujours mobilisés face aux incendies ce matin en France et en Espagne. Des lueurs d'espoir toutefois, mais le retour des fortes chaleurs pourrait compliquer les choses aujourd'hui. Reportage aux côtés des habitants de la Mierla dans un instant, cette commune espagnole de la province de Guadalajara dévastée par les flammes. Dans ce journal également, une reprise des hostilités ces dernières heures entre les États-Unis et l'Iran, et ce après plusieurs nuits d'accalmie. Un bilan qui s'alourdit après le séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon hier, au moins 13 morts et plus d'une centaine de blessés. Nous ferons aussi un point sur les derniers chiffres de l'épidémie d'Ebola en RDC. Ils sont en hausse, mais des essais cliniques ont commencé. Les incendies font donc toujours rage en Europe, en Espagne notamment, avec les pires feux de l'histoire du pays qui sévissent encore dans l'ouest de Madrid. Le travail des pompiers et des militaires est très difficile, a déclaré Pedro Sanchez hier, le premier ministre espagnol pour qui, je cite, « le pays commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Il faut toutefois rester très prudent, car chaleur et vent pourraient envenimer la situation dans les prochaines heures. En tout cas, plusieurs villages touchés par l'incendie de la Sierra Norte de Guadalajara commencent à retrouver une forme de normalité. 32 000 hectares y sont partis en fumée. Une accalmie bienvenue, notamment à la Mierla, là où le feu s'est déclaré. Et face à ces tragédies, les habitants se sentent impuissants, solidaires aussi. Reportage d'Alice Broussard.
Lorsqu'elle regarde à la télévision les flammes des incendies de Madrid, Théodora, 81 ans, ne peut pas s'empêcher de repenser à son évacuation in extremis des jours précédents, le feu si proche.
On le voyait arriver, on avait les flammes juste là, on se disait ça y est, c'était horrible.
Horrible.
C'est dans leur village, à la Mierla, que l'incendie de Guadalajara s'est déclaré. Par chance, le vent a envoyé les flammes dans la direction opposée. Il n'y a pas de dégâts, juste l'émotion, l'angoisse de devoir tout laisser derrière soi, explique Maria Teresa, 83 ans, sa cousine.
C'est une moissonneuse qui a pris feu. Ensuite, on a appris par les médias seulement comment tout évoluait. Et surtout, on connaît toute cette partie de la forêt qui a brûlé par cœur. Elle était si belle. Là, tu sors de chez toi, tu ne vois plus que du noir, du noir.
Moi,
je disais, j'ai le cœur là, coincé dans la gorge. Il faut tenir bon et penser à tous ces pauvres gens qui ont combattu le feu et qui sont encore là sur le terrain.
Les pompiers ne sont plus là, mais les hélicoptères chargés d'eau encore dans le ciel, dans le village. Des enfants jouent sur la place. Le maire tient un conseil municipal, signe du retour à la normalité. Les deux femmes ont surtout une pensée à leurs parents, leurs grands-parents. S'ils voyaient tout cela, dit l'une d'elles, je ne suis pas certaine qu'ils pourraient le supporter. Alice Froussard, La Mierla, RFI.
En France, le gigantesque brasier qui ravage la Gironde reste stabilisé. Là aussi, le travail des pompiers est très difficile. 14 reprises de feu ont été enregistrées hier, provoquant de nouvelles évacuations, notamment 4000 personnes qui se trouvaient dans des hébergements touristiques de Lacanau. Les incendies qui touchent les Landes et le Var ont quant à eux été fixés. Et pour ne pas arranger la situation, la France métropolitaine est touchée par une nouvelle vague de forte chaleur. 16 départements, notamment la Gironde et les Landes, sont placés en vigilance orange canicule. L'épisode qui s'annonce éprouvant sur le front des incendies, mais aussi pour les établissements de santé au sein des hôpitaux publics de Paris. Le déploiement de climatiseurs mobiles ne rassure pas Marius Lafont.
La direction des hôpitaux de Paris indique avoir déployé plus de 5700 climatiseurs mobiles dans ses 38 établissements. Aurélie est infirmière et déléguée syndicale dans un des hôpitaux de la capitale. C'est clairement insuffisant pour elle.
Ça ne permet pas de climatiser tous les bureaux, les couloirs. Non, ce n'est pas possible ça. Il y a des services qui sont climatisés, mais pas la totalité des services.
L'infirmière est catégorique. Il faut plus de personnel pour permettre des vacations plus courtes et s'exposer moins à la chaleur. Avec le mercure qui grimpe, elle s'inquiète pour la santé des salariés de l'établissement public.
J'ai vu des collègues faire des malaises parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans les services où elles travaillaient, et que ce soit des services de soins administratifs, que ce soit les ateliers. Et bien sûr, ça angoisse tout le monde de se dire est-ce qu'on va supporter cette fois-ci ?
Mais le coup de chaud menace aussi la santé des patients.
Dans certaines chambres, lors de la dernière canicule, il faisait plus de 35 degrés. Il y a des patients qui ont été transférés en réanimation parce qu'il faisait plus de 40 degrés, qu'il fallait les refroidir.
Les climatiseurs mobiles sont une solution temporaire. Ils permettent de créer davantage d'espaces frais, explique la direction des hôpitaux de Paris. Elle assure que les travaux de rénovation thermique de ces bâtiments les plus anciens vont s'intensifier dès la rentrée.
Marius Lafont. Après plusieurs nuits d'accalmie, regain de tension au Moyen-Orient, les États-Unis annoncent avoir lancé une attaque conjointe avec l'Arabie Saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, faisant plusieurs tués et blessés. Les Américains affirment par ailleurs avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran contre des forces US basées dans la zone. Téhéran n'a pas confirmé ces attaques. En revanche, les gardiens de la Révolution revendiquent des frappes contre trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. Conséquence, des prix du pétrole en est remonté ce matin à plus de $87 le baril. Une guerre qui était au cœur de l'entretien entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou hier à la Maison-Blanche. Le président américain qui, à la sortie, a rappelé leur objectif commun, s'assurer que l'Iran ne se dote jamais d'armes nucléaires. Volodymyr Zelensky a lui aussi été reçu hier à Washington par Donald Trump. Une très bonne rencontre, a déclaré le président ukrainien. Ils ont notamment évoqué la possibilité pour Kiev de produire des intercepteurs Patriot vitaux pour la défense anti-aérienne face aux attaques de la Russie. De Kiev qui a mené de nouvelles frappe hier. Une femme a été tuée dans une ville portuaire du sud-ouest de la Russie, tandis que Moscou continue de viser quotidiennement le sol ukrainien et entend d'ailleurs accroître ses attaques en déployant des lanceurs balistiques supplémentaires livrés par la Corée du Nord près de la frontière. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable ukrainien. La Russie, qui a par ailleurs tenté de mettre de l'huile sur le feu entre l'Ukraine et l'Iran, et ce après des frappes de longue portée menées par Kiev en mer Caspienne le week-end dernier. Frappes contre des navires transportant du matériel militaire impliquant Téhéran. La pression semble toutefois retomber entre les deux pays qui se sont parlé hier, Julien Chavanne.
Le coup de fil a été franc et direct, selon les mots du chef de la diplomatie ukrainienne. Andrei Sibiga a appelé son homologue iranien pour lui dire clairement que Kiev ne voulait pas d'escalade inutile avec Téhéran. Abbas Araghchi a ensuite lui aussi communiqué la teneur de la conversation en indiquant que l'attaque contre un navire iranien n'était pas intentionnelle et que l'Iran cherchait aussi à éviter toute escalade. Kiev et Téhéran jouent l'apaisement malgré les tensions entre les deux pays. Le régime iranien est un allié crucial de la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est lui qui fournit à Moscou des drones, des missiles et des technologies qui permettent aujourd'hui à la Russie de produire ses armes sur son propre territoire. Le Kremlin a bien tenté de pousser Téhéran à riposter en parlant, je cite, « d'une attaque ukrainienne menée contre l'Iran lui-même ». Mais l'Ukraine n'a pas du tout intérêt à ouvrir un nouveau front, et l'Iran non plus.
Julien Chavanne, le dernier bilan du séisme qui a frappé le sud-ouest du Japon hier s'est alourdi. Il fait état d'au moins 13 morts, plus d'une centaine de blessés. Les secouristes sont toujours à la recherche de personnes pouvant encore être ensevelies sous les décombres d'un centre commercial. La secousse a provoqué des dégâts considérables. Plus de 9000 personnes sont réfugiées dans des centres d'évacuation. L'épidémie d'Ebola, loin d'être sous contrôle en RDC, le pic des contaminations n'a pas encore été atteint et le dernier décompte des autorités fait état de 3262 cas cumulés pour 1437 décès. Une épidémie due à la souche Bundibugyo pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement. Des essais ont tout de même commencé et un premier candidat est en cours de test. Étape importante, a souligné hier le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus.
Il s'agit du candidat vaccin Shadox 1-BDBV pour Bundibugyo. Développé par des scientifiques d'Oxford au Royaume-Uni, il utilise la même technologie que celle du vaccin Covid d'Oxford-AstraZeneca. Plus de 600 000 doses sont déjà disponibles et 4 000 vont être utilisées pour ce test. Le premier patient volontaire a été vacciné le 24 juillet, une prouesse médicale moins de 3 mois après le début officiel de cette épidémie. Néanmoins, il va falloir attendre les résultats et les validations des agences sanitaires pour envisager son déploiement sur une zone épidémique. Dans le même temps, des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'Université de Bordeaux en France révèlent eux les premiers résultats d'une étude sur l'immunité des personnes vaccinées contre la souche Ebola Zaïre. Et selon les premières tendances, ces dernières ont développé des anticorps contre la souche Bundibugyo. Cela corrobore la plausibilité d'une immunité partielle à la suite d'une vaccination, ajoute l'INSERM. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Merci Paulina. En Hongrie, c'est à un rythme effréné que les députés du parti TISA poursuivent le démantèlement du système politique et juridique mis en place par Viktor Orban, battu dans les urnes en avril dernier. Comme promis durant sa campagne, le nouveau Premier ministre hongrois, Peter Madiar, va vite et fort. Sa méthode commence d'ailleurs à susciter des critiques, notamment au sein des ONG de défense des droits de l'homme. Écoutez Aaron Demeter d'Amnesty International en Hongrie.
Some of the changes that Peter Madiar and his government are initiating are totally.
Certaines des réformes engagées par Peter Madiar sont parfaitement légitimes, mais parfois les méthodes employées ne sont pas totalement conformes aux principes de l'état de droit. Notre position est donc très simple. S'il veut vraiment rétablir la démocratie, il doit rompre avec les méthodes utilisées par le Fidesz ces dernières années, même si les ambitions sont largement préférables à tout ce que le Fidesz a pu défendre jusqu'ici. Je pense que Peter Madiar est sincèrement engagé dans la restauration de la démocratie, mais parfois il donne le sentiment d'agir dans la précipitation alors qu'il dispose de la plus large majorité de toute l'histoire hongroise et du soutien de la population. En définitive, je crois que les 6 prochains mois seront décisifs, car on verra alors si Peter Madiar a vraiment l'intention de rétablir l'état de droit en Hongrie.
Propos recueillis par Daniel Valo, la méthode Peter Madiar, nous en reparlerons en détail dans le dossier du journal de 7h TU. Comme prévu, Zinedine Zidane est officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. Depuis hier, c'est un rêve qui se réalise, voilà ce qu'il a déclaré. Dès ses premiers mots, il a tenu à rendre hommage aux pompiers et à toutes les personnes mobilisées sur le front des incendies. Zizou qui dévoilera le staff qui l'accompagnera début septembre et on parle notamment de Fabien Barthez pour entraîner les gardiens. Et il n'y a pas qu'en France que l'équipe nationale change de main. En Italie, Roberto Mancini va faire son grand retour au poste de sélectionneur de l'Italie avec laquelle il a remporté l'Euro en 2021. Sa mission, sortir l'équipe d'une crise sans précédent, incapable de se qualifier pour les 3 dernières Coupes du Monde. Une nomination après des jours de crise au sein de la Fédération Italienne de Football et la mise à l'écart d'Andrea Pirlo, qui était pressenti pour prendre les rênes de la squadra. CV d'entraîneur jugé trop maigre et des liens avec la Russie trop encombrants à devenir.
Toutes les polémiques, notamment politiques, sont parties de la découverte d'un contrat publicitaire signé par Andrea Pirlo en 2025 avec Fonbet, la plus grande société russe de paris sportifs. Une situation incompatible avec un rôle de sélectionneur national dans le contexte de la guerre en Ukraine, selon la Fédération italienne de football. Dans la foulée, le directeur technique Paolo Maldini et le conseiller Leonardo ont démissionné, mettant à dure épreuve Giovanni Malago. Le numéro 1 du football italien a finalement imposé Roberto Mancini, 61 ans, comme sélectionneur national. Mancini, 6 fois vainqueur de la Coupe d'Italie, fait donc son comeback après son départ très controversé en 2023 pour un contrat en or en Arabie Saoudite. Par ailleurs, Giovanni Malago a nommé Claudio Ranieri, 74 ans, l'un des entraîneurs italiens les plus iconiques, en tant que directeur technique. Afrique. La mission de Mancini et de Ranieri est claire, relancer la squadra Azzurra. Anne Lenir, Rome, RFI.
C'est la fin de ce journal sur RFI. Vous écoutez la radio du monde, il est 4h13 en temps universel, 6h13 à Paris. Et à suivre dans les prochaines minutes, direction la Chine, au cœur d'une école spécialisée dans la formation aux réseaux sociaux et au live streaming. Ces diffusions en direct sur Internet, face au ralentissement de la consommation et à une concurrence de plus en plus forte, ces formations sont une manière pour les commerçants d'attirer vers eux de nouveaux clients. La culture ensuite, un film à l'affiche en France aujourd'hui, Le Triangle d'Or, où quand un lien se tisse entre Laura et Souria, deux femmes plongées dans un univers de luxe totalement démesuré. Sophie Torlotin s'est entretenue avec la réalisatrice de ce long métrage. Le conseil santé, enfin, bouffé de chaleur, fatigue, saute d'humeur, trouble du sommeil, autant de symptômes de la ménopause sur laquelle Laurence Garcia et son invité se penchent ce matin. Mais tout d'abord, on part aux États-Unis où les armes à feu ont longtemps été associées à une population blanche, rurale et conservatrice. Mais à en croire les experts, elles séduisent désormais de plus en plus l'électorat progressiste ainsi que les personnes de couleur et LGBTQIA+. C'est surtout le cas depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024. Illustration à Lancaster, en Pennsylvanie. Reportage François-Damien Bourgerie.
Ils sont une dizaine à s'être donné rendez-vous dans ce stand de tir de Lancaster. Tous sont membres du Liberal Gun Club, une association classée à gauche. Parmi eux, Molly, elle teste des pistolets de différents calibres avec son père. Elle a 22 ans, elle est sur le point de partir de chez ses parents. Il lui faut donc une arme, reste à trouver la bonne.
La première fois que j'ai tiré, j'avais 11 ans. Et maintenant que je m'apprête à déménager et à vivre seule, j'ai besoin d'une arme. Parce que je fais 1m50 et que je ne me sens pas capable de me défendre toute seule sans une arme.
Un sentiment de vulnérabilité renforcé, dit-elle, par les discours masculinistes de la droite MAGA.
Je vis dans un bon quartier. Là-bas, je me sens bien. Mais la façon dont...
Lord, help me to understand just what it takes to make me a man. Lord, help me.
cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Ça va, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
From the village of Planlanded to pursue, to pursue destiny. My ancestors wanted, wanted, wanted. Be sure a seed has been planted to blossom in a fierce flower. You can't destroy this, no color, no color, no. We are more than we've been told.
Mama, mama, yeah, he told me well. Shouldn't be a fighter. I am not an outsider, outsider, outsider. He's good, rich, it's on glory. But one decided to stand out and tell the bread to frame the same. One star off, silently blind.
We are more than we've been told. We are more than we've been told.
Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errai, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ses routes, ses trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, roulé, à grands pas des gants bergers, ruminé, rêvassé. Les semelles de mes Nike, je les ai usées, usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse, au rythme des saisons. 65 jours de soleil,